Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. Comme d'habitude, c'est 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui fait bouger autour de lui, qui fait bouger son quartier, sa société, qui fait bouger la vie. Madame, mademoiselle, messieurs, il a une sacrée responsabilité en tant que directeur général, mais aussi comme empreinte dans la société, c'est le patron du groupe Ebra. Alors Ebra, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Ebra, c'est dans notre secteur, c'est l'Est Républicain, Vosges Matin, le Républicain Lorrain. C'est Christophe Mailleux, le directeur général, et c'est notre invité.
So good, so good, I got you.
Alors, on disait un grand patron de presse. Et puis Christophe Mailleux, il arrive très humblement, il est à l'heure, discret. Quand on interroge, on dit bah, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est très discret, Christophe Mailleux. C'est plus les patrons de presse d'il y a un siècle.
Hein. Non, oui, je crois que c'est pas ma volonté. J'ai la responsabilité de ces journaux, mais c'est surtout un collectif. Et je me range derrière les équipes et puis on essaie de gérer tout ça tous ensemble. Je recherche pas particulièrement la lumière.
Alors ouais, ça, on n'a pas l'habitude de vous voir et on n'a pas beaucoup d'infos sur vous. Ça, je peux témoigner. Mais c'est pas une façon de dire. On joue en équipe. Le peu de temps qu'on a préparé, vous parlez de la mise en relation, de la capacité à produire ensemble. Mais juste, vous venez de l'employer le mot responsabilité, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de directeur général d'un groupe de presse. Ça veut dire quoi, la responsabilité d'un groupe de presse?
Alors ça veut dire beaucoup de choses en fait, puisque c'est un poste qui est à la fois tourné évidemment vers l'interne, les salariés qui ont des attentes, l'idée de projeter l'entreprise dans cette mutation du secteur de la presse, donc de faire évoluer la société, puis c'est aussi une responsabilité vers l'externe, puisqu'on a évidemment en tant que média, il y a beaucoup d'attentes de l'extérieur, beaucoup de pression également, et faut faire face à ça, également beaucoup de pression judiciaire, puisque quand on est directeur général d'un média, on est directeur de la publication, donc ça veut dire que tout ce qui part sur le papier, sur le web, dans ces journaux, j'en suis responsable à titre personnel sur mon casier judiciaire personnel. Voilà.
Ça veut dire que pourtant un journaliste a une liberté de plume, mais sa responsabilité qu'il engage, il engage aussi la vôtre.
Tout à fait. Alors il a une responsabilité de plume, mais dans le cadre d'une loi, qui est la loi de 1881, la loi de la presse, et donc ça l'oblige à respecter un certain nombre de pratiques déontologiques, et donc c'est une société qui fonctionne bien, c'est aussi la capacité pour des gens de saisir la justice quand ils estiment qu'il y a eu diffamation ou qu'il y a eu non-respect par exemple des victimes. Donc certes, il y a une liberté de ton et de plume, mais il y a un certain nombre de fondamentaux qui doivent être respectés.
Il y a aussi dans cette liberté la protection des sources, ce qui lui apporte une capacité d'écrire sans avoir à rendre des comptes.
Tout à fait.
C'est aussi, mais du coup, c'est une responsabilité pour vous aussi.
Alors c'est une responsabilité pour moi. Alors après, par définition, voilà, c'est un élément fondamental à respecter. Et donc on est dans ce schéma de responsabilité que souvent les gens ignorent. Et c'est ce qui me vaut régulièrement des procès, des mises en examen, puisque la procédure veut que le directeur de l'application soit par défaut mis en examen le temps de l'instruction de l'affaire. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement très important. Alors, j'ai la chance, moi, de m'appuyer sur des équipes journalistes qui sont des professionnels, qui ont des pratiques déontologiques. Donc, en général, les procès se passent bien. Il y a quelques rares exceptions au cours de ma carrière où ça s'est moins bien passé. Mais pour vous donner un exemple et illustrer ça, par exemple, quand je suis devenu directeur général du bien public et journal de Saône-et-Loire, un peu dans mon bizutage, les jours qui suivaient, j'ai été mis en examen, donc je suis monté à Paris, convoqué par un juge suite à une plainte de l'humoriste Dieudonné, parce que dans le journal on avait écrit que le signe de la quenelle était un signe qui pouvait être assimilé à un signe néo-nazi, et donc il avait porté plainte pour diffamation, considérant qu'il était diffamé. Et voilà, donc c'est un procès qui a eu lieu, qu'on a gagné, mais c'est toute l'importance de bien, de la précision de l'écriture et de la prudence, et on a des chartes aussi qui permettent de respecter les victimes. possible, la présomption d'innocence, tout ça est fondamental et parfois bafoué sur d'autres supports, mais pas dans les supports de presse en général.
Ah voilà, je voulais qu'on prenne un peu de temps justement, mais la transition est faite, pour dire quelle est la différence, quel est le rôle, quelle est la responsabilité d'un média par rapport à tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux où la liberté individuelle de parole peut être... est permise, en même temps, elle engage aussi une responsabilité.
Oui, tout à fait. Alors, liberté de parole, au départ, c'est fondamental, ça permet à chacun d'échanger avec son entourage. Et dès lors qu'on diffuse cette parole sur des supports largement diffusés, c'est important de respecter un certain nombre de règles. Alors nous, pour vous donner un exemple, peut-être un peu, j'allais dire sordide ou glauque, mais c'est une réalité aussi. Si aujourd'hui quelqu'un, quand quelqu'un est condamné, on a une charte qui détermine à partir de quelle peine on va se permettre de mentionner son nom dans nos colonnes, ce qui peut constituer une peine supplémentaire d'une certaine façon. Mais s'il s'agit de, par exemple, d'un cas d'inceste, on fera en sorte de ne jamais mentionner l'identité de ce coupable pour que la victime ne puisse elle-même pas être identifiée. Donc c'est ça ce qu'on appelle un journalisme de responsabilité et la capacité à certes être ancré dans son territoire, mais à respecter la présomption d'innocence. Et il y a plein d'informations aussi dont on dispose qui ne sortent jamais, faute de recoupement suffisant. C'est aussi ça le journalisme d'aujourd'hui.
Ouais. Mais alors justement, et puis je pense à l'élection américaine où on a vu quand même pas mal de fausses informations véhiculées même par des candidats, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on n'est pas dans un autre temps aujourd'hui et comment on épouse son temps d'aujourd'hui, Christophe, dans la responsabilité qui est la vôtre, c'est une interpellation forte. Je parle même pas du business là, je parle juste éthiquement dans la responsabilité.
C'est un enjeu presque existentiel dans nos vieilles démocraties. Quelle sera la place des médias dans ce monde fait en effet de fake news, de vérités alternatives, de large diffusion de théories complotistes sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus que jamais d'actualité et que les gens doivent être sensibilisés là-dessus. On mène beaucoup d'opérations d'éducation aux médias auprès des jeunes aussi là-dessus pour comprendre pourquoi c'est important de choisir ses sources d'information, pourquoi c'est important de se tourner vers des organes de presse, le nôtre comme tout un tas d'autres qui font sérieusement leur travail et pourquoi c'est une différence majeure par rapport à ce qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle ces bulles informationnelles de réseaux sociaux où finalement on nous sert, on va même plus vers l'information, c'est l'information qui vient vers nous et qui nous enferme dans des convictions et parfois des fake news. À ce sujet, il y a quelques semaines dans le journal, au moment des élections présidentielles, on parlait d'une anecdote, c'est pas une anecdote, d'un fait vraiment assez étonnant, c'est que quand Trump, en plein discours présidentiel, annonce que les Haïtiens mangent leurs animaux domestiques, dans la foulée, tous les médias américains montent au créneau et expliquent à quel point c'est une fake news. Et même la personne qui a sorti cette information admet que c'est une fake news. Sauf qu'au moment de mettre un bulletin dans l'urne, 50% des partisans de Donald Trump étaient persuadés que les Haïtiens mangeaient leurs animaux domestiques. Donc dans ce schéma-là, et ça c'est les États-Unis, mais en France on a aussi beaucoup beaucoup de problématiques de ce genre-là, je pense que c'est plus que jamais important d'être vigilant sur la façon dont on s'informe et de considérer que c'est important de faire confiance dans les journalistes, quels que soient leurs médias, pour avoir la bonne information.
Alors je continue de vous titiller un petit peu, mais en même temps, en plus vous êtes un média privé, alors parce que on peut dire le média public, il est sain, il est naturellement bon, enfin voilà quoi, il est naturellement à l'abri de toute suspicion. Vous êtes en plus un média privé, quoi, donc l'argent est derrière, quoi.
Alors c'est vrai, on est un média privé, mais on a la chance nous d'avoir un actionnaire qui s'appelle le Crédit Mutuel, qui est une banque mutualiste, donc qui appartient à ses sociétaires. Et je peux en témoigner, ça fait maintenant 14 ans que je suis directeur général, je n'ai pas le Crédit Mutuel qui m'appelle pour m'expliquer qu'il faut qu'on parle de ceci ou parle de cela, il n'y a pas du tout cette volonté d'intervenir, et donc ça, c'est surtout cette proximité, cette animation du territoire qui est importante, et donc les journalistes ont une vraie liberté, y compris vis-à-vis de moi, j'ai beau être le directeur général, je vais pouvoir relire un papier pour savoir si il peut être publié pour des raisons juridiques, mais en aucun cas pour des raisons éditoriales. Voilà.
Alors là, on a fait le côté peut-être un peu dur et un petit peu qui renvoie à la responsabilité, mais la responsabilité, elle est aussi pleine d'énergie, pleine de prospective, pleine d'avenir. Quand on est à la peut-être à la tête d'un grand groupe comme ça, fort d'une histoire aussi. Enfin, oui. Quand on dit l'Est républicain à Nancy, on dit l'Est républicain à Nancy, près de la gare, c'est ce magnifique bâtiment, c'est inscrit dans nos murs, dans nos gènes. Mais c'est aussi un avenir à concocter, à dessiner, à faire ensemble. Comment on accompagne ses lecteurs, comment on accompagne les gens qui utilisent aujourd'hui d'autres médias pour avoir toujours ce socle d'informations éduquées, j'allais dire.
C'est ça. Ben voilà, en effet, le secteur de la presse, c'est un secteur vraiment passionnant parce que c'est un secteur historique. Hein, l'Est républicain, c'est 1889, et c'est un secteur qui bouge beaucoup, qui mute. Donc il y a beaucoup de changements et en même temps, les fondamentaux restent les mêmes. La nécessité d'une information fiable, vérifiée, recoupée. Et après, ben, on doit plus que jamais aller vers nos lecteurs, s'adapter à leurs nouveaux usages parce que les usages de lecture de l'information ont beaucoup changé, démultiplier évidemment, alors défendre le vaisseau amiral que constitue le journal papier, ce rendez-vous privilégié du matin, mais aussi défendre la partie digitale, développer cette partie-là sur les sites internet et les applications mobiles, et puis développer toute une partie aussi sur les réseaux sociaux, l'événementiel. Donc tout ça constitue multitude d'offres pour être en phase avec nos lecteurs et leurs attentes d'aujourd'hui.
Ça veut dire qu'on a une stratégie estrépublicain.fr, on a une stratégie Vosges Télévision, Vosges Matin, oui. Voilà. Alors Vosges Télévision aussi d'ailleurs, puisque vous êtes aussi un peu en lien avec tous ces partenaires.
Oui, on a une participation mais très très minoritaire dans Vosges Télévision, mais c'est sûr que on a besoin. Alors ce sont les mêmes équipes éditoriales, on n'a pas d'équipe à quelques rares exceptions dédiée à un support. Donc le contenu, il reste le contenu d'aller sur le terrain à la rencontre des acteurs du territoire, et puis ces différents contenus, après, ils sont enrichis différemment pour correspondre aux formats digitaux, vidéo, podcast, évidemment, écriture, print et web.
Alors, la spécificité, c'est la presse de proximité, quand même. À l'heure où on est facilement inondé par l'information nationale, européenne ou internationale, comment on arrive encore à faire vivre ce lien de proximité et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que les lecteurs attendent de ce lien de proximité?
Alors, ils attendent énormément de choses et c'est pour ça que c'est à la fois important d'être vigilant là-dessus et complexe parce que chacun a ses domaines d'intérêt, a sa zone géographique et donc les gens attendent vraiment une information de proximité. Donc notre ambition c'est vraiment de couvrir au plus près des territoires. On a des agences disséminées sur l'ensemble de la zone Lorraine et Franche-Comté puisque l'Est républicain c'est aussi trois départements de Franche-Comté. Des correspondants locaux qui sont dans tous les petites villes et villages pour parler aussi de l'information hyper locale. Donc ça va évidemment de l'information positive, légère, loisir, culture associative, et c'est très important. Et puis c'est aussi se saisir de l'actualité politique, les conseils municipaux, l'économie, voilà, et d'être au contact des gens et de valoriser les belles entreprises et les belles initiatives. Et parce que ça fait notre médiatisation permet une forme d'émulation, et en ça c'est un rôle aussi très positif.
Oui. D'exemple perso, mais je le mesure dans la commune où j'habite, le changement de correspondant local, et ben c'est un petit événement quand même. Quoi. Oui. Et voilà. Et ça se passe super bien, mais voilà, c'est quand même le correspondant local, c'est un petit événement local quand même. Hein.
Tout à fait, ouais, ah. on a vraiment cette proximité, donc évidemment on part de cette vraiment de l'ultra local, et puis on monte jusqu'au département, à la région, à la grande région et au national évidemment.
Mais du coup, ce correspondant local, quel qu'il soit, où qu'il soit, il donne aussi une image de ce journal, voilà, il y a un lien étroit entre l'information et local. Et nationale, vous êtes les seuls à avoir ça.
Oui, c'est une vraie force et je pense que dans l'évolution future, ça restera un atout majeur. Cette proximité de ces gens, on en a à peu près 200 par département là, sur les 7 départements de diffusion de ces 3 médias. Donc ça représente vraiment beaucoup, beaucoup. Et on est aussi une vraie économie locale qui, voilà, même si ce sont des non-salariés parfois qui font ça à titre accessoire. Et puis on a les porteurs, ceux qui amènent, et c'est aussi un élément très très important social, les gens qui déposent le journal dans la boîte aux lettres de nos abonnés. Il y a 80% de nos abonnés qui sont portés aujourd'hui. Bah, là aussi, c'est des travailleurs non salariés, mais c'est à peu près également 150 à 200 porteurs chaque jour dans tous nos départements qui apportent ça. Et ça fait aussi du lien social dans la ruralité. Et voilà, les abonnés, ils sont sensibles.
Alors, on voit le lien social. Abordons encore peut-être un peu rapidement, malheureusement, mais la ligne éditoriale. Parce qu'à l'heure où la consommation du média change, le temps de lecture diminue, l'objet de lecture évolue aussi, change. Comment on arrive à fixer, à déterminer, à tenir, à faire évoluer une ligne éditoriale? C'est quoi une ligne éditoriale aujourd'hui?
Alors la ligne éditoriale, si on parle d'opinion, on n'est pas un journal d'opinion. En tant que tel, on n'a pas de couleur politique particulière. Notre vocation, c'est vraiment d'être capable de servir de tribune à tous les courants de pensée, à toutes les expressions, et de pouvoir finalement les télescoper dans une recherche de contradictoire. Si on reçoit un témoignage d'une personne, on va avoir à cœur de récupérer un témoignage contradictoire pour avoir une vue globale du sujet. Et puis, voilà, et donc c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Après, par rapport à votre question, l'idée, c'est en termes de format, de démultiplier des formats, alors dans la limite évidemment des moyens humains dont on dispose, parce que ça prend beaucoup de temps, mais d'être capable d'ajuster des contenus un peu plus longs, des contenus un peu plus courts, réactifs, d'analyse, en vidéo, sur les réseaux sociaux, pour répondre à tous ces usages très très nombreux aujourd'hui qui se développent.
Mais l'information a un prix. Comment on peut développer, quand on est un groupe privé, ce type d'information? Vous évoquiez la difficulté de répondre à tous les besoins de support, c'est difficile, mais c'est aussi une rentabilité qu'il faut pouvoir trouver. Est-ce que les gens sont plus forcément prêts à payer l'information, puisqu'on voit bien que les GAFA occupent, aspirent cette production d'information? Comment on fait un équilibre, et quelle responsabilité aussi on a en tant que lecteur, vous pouvez peut-être envoyer?
Je crois d'abord c'est important que chaque lecteur se pose la question, savoir quel est l'intérêt pour lui de financer un média et de payer l'information. Le traitement de l'information a un coût. C'est un peu comme dans l'alimentation, on peut acheter des produits transformés en fermant les yeux, surtout pas regarder la composition, ou privilégier en local des producteurs qu'on connaît. Et je pense que c'est un peu le même esprit pour l'information, c'est exactement la même chose. Et après, c'est vrai que le modèle économique de la presse a beaucoup muté et fortement mis à mal. On voit que les organes de presse sont en difficulté, et on voit aussi aux États-Unis où il y a il y a à peu près un média qui ferme par semaine, et des États qui n'ont plus du tout de médias. Et il est démontré que quand il n'y a plus de médias dans une zone, c'est scientifiquement démontré par des chercheurs, le populisme prend la place. Donc je pense que c'est important d'abord de sensibiliser, c'est pour ça qu'on mène beaucoup d'actions aussi d'éducation aux médias auprès des jeunes publics, pour que chacun comprenne l'intérêt d'un journalisme de qualité sur sa zone. Et puis ensuite, c'est d'aller développer évidemment nos abonnements numériques, voilà, il y a aussi le financement pour une part minoritaire, mais qui reste important des annonceurs qui choisissent notre support pour véhiculer leur communication. Et donc un média, sa vie très majoritairement du fruit de ses abonnés, des recettes d'abonnés, et puis après c'est développé aussi le chiffre d'affaires annonceur par la qualité de notre support,
avec un peu d'événementiel aussi, voilà, on va mûrir autour de nous. Merci Christophe. Alors j'ai quand même un problème, c'est que vous êtes à la hauteur de votre réputation. Pour le moment, on est resté très pro. Allez, petite pause musicale, c'est votre choix. C'est Richard Cottener, on l'explique juste après.
Comment vous dites de l'eau de source, et pourquoi pas une baleine bleue, un éléphant, un bébé ours? Sans plaisanter, restons sérieux. Moi j'en ai vu une fois dans une vieille bouteille. Je connais quelqu'un qui en a bu. C'est paraît-il une merveille. On en a eu, et on a eu plein de l'eau. On en a eu à une époque. Mais là, rupture de stock. Walou tatin, on en a plus en magasin de l'eau. Tout ça est un peu dépassé. Même le poisson n'est plus en vogue. Le vieux produit était usé. On l'a sorti du catalogue. Mais l'eau de pluie, faut pas la boire. L'année dernière, quand il a plu, j'ai eu des trous dans le par-dessus. On en a eu, y en a eu plein de l'eau. On en a eu à une époque. Mais là, rupture de stock.
Oui,
c'est l'heure de se retrouver. 3 minutes, c'est un maximum de musique dans I Feel Good. C'était Rupture de stock de Richard Gottener. C'était le choix de mon invité.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Christophe, pourquoi ce rupture de stock de Gottener alors que il semblerait qu'on écoute beaucoup de styles musicaux?
Oui, voilà, j'aime beaucoup le rock, le Queen of the Stone Age, le jazz aussi beaucoup, j'aime beaucoup NJP d'ailleurs, et puis le blues, du funk, un peu de musique classique. En fait, j'ai choisi cette chanson de Gottener parce qu'elle a 30, plus de 30 ans d'âge, une sorte de dystopie sur l'eau de source qui n'est plus consommable et qui n'existe plus dans nos sociétés. Je trouvais que c'était une chanson qui avait encore beaucoup de sens aujourd'hui, à l'heure de la COP29, de la COP16, des problèmes des agriculteurs et du scandale Nestlé sur le minéral dans les Vosges.
Alors, c'est d'actualité partout. Tu viens à la radio avec un cadeau que je mets pour les caméras, Oiseau de Bonheur, avec le sacré camarade Costa. Merci pour ce cadeau qu'on va mettre à disposition à la radio, parce que c'est un lieu de passage important. Et merci pour ce cadeau. C'est en lien avec ce sentiment, ce mot fort que vous avez employé à plusieurs reprises sur la responsabilité. C'est aussi cette responsabilité pour demain de l'environnement, parce qu'on le voit ici, on agit, il y a des projets là autour de l'Est, autour du développement durable. Là, on sent qu'il y a c'est une responsabilité que vous portez en particulier.
Oui, le groupe Ebra s'est doté...
Arrêtez. il commence à me fatiguer, Mayu, il commence à me fatiguer.
Alors allez, je me livre un peu personnellement, c'est ça le but.
Il nous reste 8 minutes, ça ne va pas être long.
Non, bien sûr que c'est quelque chose qui... pour raconter un peu peut-être le contexte, j'ai vécu dans un tout petit village. En Normandie.
Ça, c'est la première date
importante.
C'est la
première date, voilà.
On va les avoir. Première date importante dans sa vie, juillet 1973.
Voilà, un petit coin de paradis qui s'appelle Saint-Amand-des-Hautes-Terres, en Normandie, un village de 200 âmes. Et donc, moi, j'ai vécu vraiment dans cette ruralité, cette liberté, cette insouciance, vraiment en contact avec la nature. Et donc, ça a aussi façonné ma vie. Donc, oui, j'ai cette sensibilité-là. Alors, je n'ai pas la prétention d'être parfait, surtout en termes d'environnement et d'écologie, mais j'y suis sensible et je crois que plus que jamais, on a besoin de se mobiliser sur ce sujet. Et c'est le journal a aussi une responsabilité là-dessus et c'est important que on puisse se retrouver là-dessus sur ces sujets importants, sur ces problèmes environnementaux, mais aussi sur les solutions qui sont apportées par de nombreux acteurs dans le territoire qui se mobilisent, beaucoup d'associations, beaucoup de scientifiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel je suis attaché.
Cet équilibre entre le bien-être mais aussi le savoir.
Oui,
à partager. La Normandie, ça reste quelque chose d'important.
Oui.
Hein, c'est la première date importante dans la vie. Oui. On l'a dit tout de suite. Et c'est.
Oui, parce que je crois que c'est d'abord c'est une très belle région et puis c'est cette enfance vraiment heureuse. Tournée heureuse.
Un frangin.
Voilà, une école de village où on avait deux classes, dont une en préfabriqué et voilà, c'était CE2, CM1, CM2 dans la même classe avec une seule institutrice. Donc c'était peut-être pas le meilleur niveau qui soit, mais c'était du bonheur, beaucoup d'insouciance et finalement ça m'a beaucoup servi, je pense, en termes de valeurs et puis de rencontres. Voilà.
Alors après, on grandit en Normandie toujours?
Alors on grandit un peu en Normandie, en Basse-Normandie à Caen, et puis ensuite j'ai passé 7 ans à Paris. Donc là, gros changement pour le coup en termes de vie. Et puis,
pour le boulot, pour les formations, pour
l'étude? Alors pour la fin des études, puis j'ai pour le service militaire, et puis, pour le travail. Et puis ensuite, j'ai déménagé, j'ai rencontré ma femme à Paris et on a décidé de revenir en province. Et je suis passé par Dijon, par la Bourgogne. Je me suis marié avec une franc-comtoise et on a choisi d'atterrir à Dijon où j'ai passé 15 ans. Voilà, avant de rejoindre la Lorraine en 2014.
Alors on va pas aller trop vite quand même, ça veut dire que la vie parisienne c'était un petit coup de ce qu'on appelle KPMG.
Voilà, oui, cabinet d'audit consulting. Et donc cette année j'étais aussi dans la réassurance, tout au début de ma carrière, mais vraiment quelques mois.
Donc ça veut dire une carrière plutôt dans la finance.
Voilà, finance, gestion. Mais finalement le passage chez KPMG, ça m'a donné une vraie ouverture d'esprit. On est au contact de nombreux clients de secteurs d'activité très très différents et j'y suis resté 4 ans et demi et ma seule crainte en sortant de ce cabinet, c'était de m'ennuyer parce que c'était extrêmement riche là aussi d'activités différentes et de rencontres. Et là-dessus, la presse correspond, cochoute les cases. C'est une activité extrêmement riche avec beaucoup de profils différents. Une activité qui travaille quasiment 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc, dans la presse, il y a une certitude, on ne s'ennuie pas.
Alors on revient sur le consulting, parce que ouais. ce sont des boîtes qui sont aussi un petit peu discriminées de temps en temps, parce qu'elles ont l'habitude de se prendre des chèques pour faire du consulting, et puis après le partenariat, il ne reste plus rien. Ça a quand même un intérêt aussi, ça quand même, si ça existe, c'est quand même...
Oui, c'est un intérêt. Alors moi, c'était... c'est un vrai intérêt, c'est une vraie très bonne école quand on y commence, et puis pour les clients, ça apporte la capacité de recourir à des experts, donc je pense que c'est vraiment important. C'est vrai que moi, je ne me voyais pas rester dans ce monde-là parce que j'avais besoin justement de revenir à du concret et d'aller au bout des missions. Donner des conseils, c'est bien, mais je préférais faire. C'est ce qui m'a fait changer, mais ça reste en effet des cabinets professionnel important.
Ouais. Donc main dans la main, on retourne un petit peu dans la France des régions. Voilà. On s'installe au bien public.
Voilà, à Dijon, petit passage professionnel avant de rejoindre le bien public quelques années après. Et voilà, je suis tombé dans la presse en 2003, alors pas tout à fait par hasard, parce que j'avais toujours bien aimé ce secteur, mais au travers d'une opportunité.
C'était pas prédestiné en tout cas.
Non, j'avais baigné dans mon père qui aimait bien la presse, j'aimais bien lire la presse, mais je suis rentré dans cette partie-là sur la partie gestion au bien public, au journal de Saône-et-Loire, et puis de fil en aiguille, voilà, j'en suis devenu directeur général.
Mais alors ouais, justement, de fil en aiguille, c'est le fil en aiguille qui m'intéresse. Comment on vient directeur administratif et financier, DAF, enfin voilà, à DG, ce qui n'est plus du tout la même chose, quoi.
Comment
on épouse le métier, comment on épouse la vocation, parce qu'il y a quand même un bout de responsabilité sociétale.
Ouais. Quand on est dans ces métiers-là, on a la chance d'être au cœur du recteur et de travailler avec tous les autres services, de s'intéresser à leurs projets, de s'intéresser à leurs problématiques. Et je pense que ça a été la clé qui a fait que, de façon totalement inattendue, parce qu'à aucun moment j'y n'y avais pensé, à aucun moment je me rasais le matin en me disant je vais devenir DG de journaux. C'était pas du tout un calcul de ma part, mais il s'avère que le DG de l'époque est parti et a proposé que je prenne la suite. Donc il m'a invité à déjeuner comme ça une fois en me disant est-ce que vous êtes libre ce midi, j'y suis allé, il m'a dit voilà, j'ai proposé que vous preniez la suite. Ça a été un vrai choc pour moi. J'ai dit au départ non, il m'a dit mais c'est le genre de proposition.
Vous n'aviez pas senti venir, ouais, c'est ça?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il y avait dans le comité de direction des gens plus expérimentés que moi. Et puis, finalement, voilà, je me suis dit en effet, j'ai rien à perdre, c'est passionnant, j'y vais. J'avais beaucoup de choses encore à apprendre, mais ça a été une vraie aventure passionnante.
S'il y avait un défi que vous n'avez pas encore présenté à vos équipes, que vous auriez envie un peu plus perso de présenter en disant voilà, si vous demandez à Christophe Mailleux un projet peut-être un peu entrepreneurial et éditorial à la croisée des chemins.
Alors on a la chance dans ce secteur de toucher à énormément de choses et un certain nombre de projets comme celui sur les oiseaux qu'on peut imaginer gérer. Alors encore une fois, là aussi collectivement avec des journalistes qui se mobilisent sur ces sujets-là. Mais finalement il y a beaucoup de choses que j'ai eu l'occasion de faire. Je crois que le plus grand défi c'est créer le produit d'information de demain, celui qui sera massivement consulté et que les gens seront prêts à payer dans cette approche que j'évoquais tout à l'heure d'un journalisme responsable et d'une défense de la démocratie, parce que je crois que c'est à un moment donné ça l'enjeu. Donc ça aujourd'hui ce serait mon rêve et vraiment le projet que j'aimerais qu'on puisse mener, mais c'est un projet, un véritable défi dans cette période.
Et par rapport aux autres responsables de la société, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense au personnel politique, quel est peut-être le point d'attention que vous voudriez attirer, sur lequel vous dites attention, ne loupez pas cette coche-là?
C'est l'idée en tant que média local, c'est de valoriser évidemment le local, de travailler ensemble, de savoir... Je reprends vraiment l'exemple de l'alimentation, parce que je crois que c'est exactement ça. À quel moment on est parti dans des choses un peu folles, à privilégier des supports? Alors les réseaux sociaux sont incroyables, mais aujourd'hui il y a même... Je vais donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, quand un ministre a une information importante à donner, la première chose qu'il va faire, c'est un tweet. Or... tweet, c'est X. Le réseau X, c'est Elon Musk. C'est un réseau aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup de critiques parce qu'il est accusé de désinformation et de véhiculer des théories complotistes. Et finalement, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une forme d'absurdité. Pourquoi est-ce que on privilégie pas les médias nationaux, les médias locaux, et pourquoi on s'enracine pas sur tout ça? Et voilà, c'est toute cette communauté locale avec les entreprises, les personnalités politiques, les médias, non pas dans un entre-soi ou en verrouillant les choses, mais au contact des citoyens, valoriser le local.
Et alors, on dépasse, mais quelle place publique on peut imaginer aujourd'hui pour avoir cette démocratie?
Je pense que c'est... c'est une défense quotidienne de tous les citoyens et puis une exigence, parce que les citoyens sont exigeants vis-à-vis des médias, on fait l'objet de critiques et c'est bien normal aussi, et à nous d'évoluer, de donner cette confiance et de l'accompagner.
Merci Christophe.